Comme chaque lundi, on évoque l'actualité du sanctuaire de Lourdes et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui par téléphone David Torchala. Bonjour David.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire. Comme les auditeurs le constatent, vous n'êtes pas en studio puisqu'aujourd'hui vous êtes dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Oui, vous avez raison, je suis un petit peu loin, mais je suis à Garaison. Et Garaison, c'est jamais loin de Lourdes. Voilà un magnifique sanctuaire d'apparition. Il y a 500 ans. Et donc, je suis là en journée de travail avec les membres du conseil directeur et puis, voilà, l'équipe de direction du sanctuaire pour se poser, et, voilà, toujours regarder, redéfinir un peu les objectifs, la mission du sanctuaire. Alors, le choix a été de venir à Garaison. C'est aussi un retour aux sources, puisque les chapelains, les prêtres, on appelle ça les pères de Garaison. Voilà, ce sont eux qui sont venus construire le sanctuaire. Donc, un clin d'œil à l'histoire. Et c'est pour ça que je vous appelle depuis là-bas. Le
voilà.
Temps est magnifique.
Le temps est magnifique, avec une belle vue sur les Pyrénées. Le recteur, il en sera question dans un instant, puisqu'il sera votre invité. Vous l'avez invité en studio il y a quelques jours, mais auparavant, au mot de l'actualité du sanctuaire, avec deux événements à noter, l'arrivée de Lourdes Cancer Espérance, un magnifique pèlerinage qui commence demain.
Oui, ils arrivent aujourd'hui, le début du pèlerinage est pour demain. 5500 pèlerins de Lourdes Cancer Espérance sont attendus. C'est une vague blanche et verte qui va arriver déferlée. Sur l'autre, ça change des vagues de gaves de peau qui nous ont tant meurtri la semaine dernière. Une vague d'espérance, voilà, un pèlerinage magnifique, vous l'avez dit Gilles, pour toutes les personnes qui sont atteintes du cancer, pour les familles, les accompagnants, pour les personnes qui sont en rémission et aussi pour les enfants. Malheureusement, on a des pèlerinages qu'on n'aimerait pas les voir progresser. Et le pèlerinage au cancer espérance en est de cela, parce que chaque année, il y a de plus en plus d'inscrits et en même temps, c'est l'occasion de l'espérance et voilà de s'entretenir, chacun de s'encourager dans la foi. Donc un très beau pèlerinage qui est présidé cette année par Monseigneur Perceroux, l'évêque de Nantes, et le thème sera évidemment les processions de Lourdes, qui sont le thème pastoral des pèlerinages de l'année 2024 à Lourdes.
Autre événement à noter, c'est le week-end prochain, ce sont les journées européennes du patrimoine, et le sanctuaire participe.
Oui, le sanctuaire va proposer cette année des visites guidées. C'est ce qu'on préfère dans les journées du patrimoine, de pouvoir aller à la rencontre des lieux qui sont fermés au public. Et donc, ce sera l'occasion pour les personnes de faire un petit parcours à l'intérieur des basiliques du sanctuaire, de les découvrir, de les redécouvrir, et puis d'entrer dans le service des archives et du patrimoine. Voilà, un lieu qui est fermé habituellement au public. Et donc, son conservateur, Robin Dupont, son archiviste, Nicolas d'Argegène, seront là pour accueillir le public et puis faire découvrir les collections du sanctuaire, des collections de textiles, d'orfèvrerie, des archives. Voilà, vraiment un beau moment. Donc les visites seront donc le samedi et dimanche de ces journées du patrimoine, avec ce petit parcours guidé, tout simple, mais vraiment dans un esprit de rencontre et d'échange.
Voilà, et on termine en remerciant aussi les nombreux pèlerins qui étaient là ce week-end, pèlerins de l'hospitalité basco-béarnaise, hein, le diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron était là ce week-end avec ce pèlerinage qui se termine ce matin. On les salue s'ils nous écoutent.
Ah oui, un grand salut à nos voisins, à nos cousins, les Bascos et Béarnais. Un magnifique pèlerinage là aussi sous le soleil, un très beau moment ensemble quand on aime les vivre.
Un grand merci David Torchala, on vous laisse regagner donc le conseil du recteur, puisque vous l'avez dit, hein, cette journée vous êtes du côté de Garaison, et on va se quitter avec une interview que vous avez réalisée il y a quelques jours justement avec le recteur du sanctuaire.
Oui, on va aller à la rencontre des chapelains du sanctuaire, ces prêtres qui font cette communauté des chapelains et qui veillent sur la grotte chaque jour.
Merci David Torchala, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. Et bonne journée donc à Garaison.
Merci, merci à tous.
Présence. des chapelains du sanctuaire de Lourdes. Les chapelains sont des prêtres au service du sanctuaire. Nous sommes avec le père Michel Dauban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le recteur du sanctuaire, et on peut dire que vous êtes le supérieur de cette communauté des chapelains. Ces chapelains qui arrivent dans l'histoire de Lourdes très rapidement après les apparitions de 1858. Déjà en 1866, les premiers chapelains qui nous viennent d'un sanctuaire voisin, du sanctuaire de Garaison, veilleront à la chapelle voulue par la Vierge elle-même dans sa demande lors de la 13e apparition à Bernadette Soubirousse d'aller dire aux prêtres que l'on baptise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Père Michel Dauban, vous êtes le supérieur de cette communauté. Cette communauté, est-ce qu'on peut dire qu'elle est éclectique, qu'elle est mosaïque ? Au sens propre, ce n'est pas une communauté religieuse comme on peut l'entendre, mais pouvez-vous nous la décrire ?
Alors cette communauté, je dirais en tout premier qu'elle est belle, elle est très très belle, parce qu'effectivement elle est diverse et elle est riche de cette diversité. La constitue un certain nombre de prêtres diocésains, donc qui viennent des différents diocèses qui sont envoyés par leurs évêques respectifs. Il y a ensuite un certain nombre de prêtres faisant partie de communautés. En fait, il y a trois petites communautés au sein de cette grande communauté des chapelains, avec les Oblats de Marie Immaculée, avec les prêtres de Saint-Martin et puis les frères capucins. Et je rajoute à ces trois communautés ceux par lesquels, en fait, j'aurais dû commencer, à savoir, vous avez évoqué les pères de Garaison, donc les missionnaires de l'Immaculée Conception, puisqu'ils sont présents, et notamment avec le père Horacio Brito, qui fut recteur de ce sanctuaire. Et je n'oublie pas le frère Jean-Paul Lecot, qui a marqué et qui marque encore aujourd'hui avec la musique liturgique l'animation des célébrations du sanctuaire. Et je rajoute également une autre communauté, alors qui ne réside pas dans la maison des chapelains, puisque nous avons aussi un lieu de fête où nous vivons, où nous habitons. C'est la communauté des Fils de l'Immaculée Conception, dont certains sont affectés à la pastorale du sanctuaire et d'autres desservent un certain nombre de paroisses à la demande de l'évêque du diocèse. Voilà, donc cette communauté, elle est riche, elle est diverse. Je rajoute, au titre de la diversité, le fait qu'il s'agit évidemment d'honorer la pastorale dans les différentes langues des pèlerins qui viennent dans le sanctuaire. Et donc, à ce titre-là, il y a évidemment des prêtres français, francophones. Il y a des prêtres qui parlent l'italien. Il y a des confrères qui parlent l'espagnol. Il y a des confrères qui parlent l'anglais. Il y a un prêtre qui est en charge de la pastorale des Tamouls. Il y a un prêtre pour le néerlandais, un prêtre pour l'allemand, des prêtres pour le polonais. Il y a un prêtre roumain engagé dans la pastorale francophone. Il y a un prêtre brésilien qui honore les pèlerins qui parlent le portugais, le brésilien, puisque c'est pas toujours exactement la même langue. Voilà, j'espère n'en oublier aucun. Si c'est le cas, qu'il m'en pardonne. Mais voilà, je pense que cette diversité, elle est importante. Et je complète en disant que, de fait, ensuite, un certain nombre de responsabilités plus particulières sont dévolues à certains d'entre eux. Il y a par exemple un vice-recteur pour m'assister plus directement dans ma responsabilité. Il y a un responsable, par exemple, de la pastorale liturgique et sacramentelle. Il y a un responsable de la pastorale des individuels, un chapelain qui est plus en lien avec le service de la communication ici même, tel autre qui est plus engagé auprès du service de l'accueil, de la planification des pèlerinages. Au titre aussi du service du bénévolat, il y a bien sûr un aumônier général pour l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Bref, des missions qui sont dévolues à certains d'entre eux, outre la mission générale qui nous incombe à tous, y compris d'ailleurs au recteur, et c'est évidemment sa joie, à savoir de célébrer les sacrements avec l'Eucharistie, avec le sacrement du pardon et de la réconciliation, à savoir le sacrement des malades, avec en particulier là aussi l'aumônier de l'accueil Notre-Dame, un prêtre polonais, et puis une présence également au centre information l'occasion pour accueillir le tout venant avec l'équipe de laïcs qui sont là aussi pour recevoir les demandes toutes les plus diverses et variées qui peuvent nous arriver quotidiennement.
Ça veut dire que cette communauté qui est composée environ de 35 prêtres a comme mission, finalement chacun a une mission commune, qui est celle d'accueillir les pèlerins au sens large. C'est ça, quand on devient chapelain, est-ce que c'est l'intitulé de la lettre de mission quelque part ?
Alors, la lettre de mission que chaque chapelain a reçue, elle a à la fois éventuellement une précision bien spécifique, ce que je viens de dire, et en même temps, elle s'inscrit dans un cadre général qui est celui de traduire concrètement et par délégation la mission qui incombe à l'évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, qui a reçu cette responsabilité outre la conduite du diocèse de Tarbes et de Lourdes, celle d'être gardien de la grotte, c'est l'intitulé exact de la mission. Et de fait, cette mission, elle est déléguée largement au recteur, qui lui-même s'entoure de toute cette équipe de prêtres pour pouvoir la mener à bien, après avec effectivement toutes les collaborations multiples et variées qui sont celles des laïcs en responsabilité. Mais de fait, je pense qu'en soulignant cette dimension d'accueil, vous visez tout à fait juste. Il s'agit bien aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ceux qui viennent dans le sanctuaire, et eux aussi sont extrêmement divers, d'où d'ailleurs notre diversité à nous aussi, puisqu'il s'agit de fait d'annoncer le message de la Vierge Marie à Bernadette, qui est le message de l'Évangile, le message de la Vierge au terme des 18 apparitions. Il est ni plus ni moins celui que Jésus énonce dans les évangiles et dont notre mission est de le traduire concrètement dans les faits, avec une mission d'accueil, d'évangélisation, d'écoute, d'accompagnement. L'accueil, c'est pas uniquement le premier jour quand on arrive à la porte, c'est jusqu'au dernier jour pour raccompagner là où la personne vit, même si évidemment on ne va pas jusqu'où les pèlerins habitent, mais il s'agit bien de donner des éléments pour conforter dans la foi tous ceux qui viennent dans le sanctuaire. Et s'ils viennent, c'est bien parce qu'ils ressentent cet appel du Seigneur tel que la Vierge Marie l'a répercuté, pour être plus fort et pour être plus épaulé dans l'espérance que donne la foi chrétienne à chacun.
Il y a un lieu dans le sanctuaire qui est la chapelle de la Réconciliation. C'est un lieu fort, un lieu évidemment attendu souvent dans une démarche de pèlerinage. Confesser, et beaucoup confesser, c'est vraiment le quotidien des chapelains.
Oui, la confession, le ministère du pardon et de la réconciliation occupe une place extrêmement importante en temps, mais pas qu'en temps, également en densité pastorale, en densité spirituelle. Pour le ministère d'un prêtre, c'est sûrement un des lieux les plus forts et quelque part les plus gratifiants aussi pour les prêtres que nous sommes, puisqu'il s'agit d'attester de cette miséricorde, cet amour infini du Seigneur pour chacun. Quelle que soit sa vie, quelles que soient ses chutes, quelles que soient ses épreuves, ses difficultés et ses complicités, quelles que soient nos complicités à tous avec le mal, il s'agit bel et bien entendu d'une parole qui effectivement nous relève, va et désormais ne pêche plus, lève-toi et marche, comme Jésus l'a proclamé dans l'Évangile. Et c'est vrai que j'aime à dire que le lieu le plus important, le lieu stratégique du sanctuaire, bon bien sûr, il convient de dire que c'est la grotte, c'est évident, mais de fait le cœur du sanctuaire, il est assurément dans cette chapelle des confessions, qui est assurément le lieu de miracles quotidiens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des pèlerins qui viennent pour se confesser, parce qu'ils sont confessés pendant toute leur vie, parce qu'ils se confessent régulièrement dans leur paroisse, parce qu'ils se confessent régulièrement dès qu'ils arrivent en pèlerinage dans le sanctuaire. Mais il y en a d'autres qui viennent et qui ne se sont pas confessés depuis longtemps, parfois depuis très longtemps, parfois qui ne se sont jamais confessés. J'ai moi-même reçu des personnes qui disent « Me voilà, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai senti qu'il fallait que je vienne. Donc aidez-moi, dites-moi qu'est-ce que il peut être important que je vive là maintenant dans ce confessionnal. Donc c'est un ministère d'accompagnement, d'écoute qui est extrêmement fort, extrêmement riche, et ce qui me permet aussi de dire que de fait, même nous les 35 chapelains, parfois nous ne suffisons pas en effectif pour honorer toutes les demandes. Parfois il y a des files impressionnantes à cette chapelle des confessions, d'où le fait que nous appelons alors d'une part un certain nombre de confesseurs auxiliaires qui viennent particulièrement, d'ailleurs ça me permet de dire que si il y a des prêtres qui veulent se ressourcer, y compris dans leur ministère, et qui ont une semaine, qui ont 15 jours, quelle que soit leur langue, pour se mettre à disposition du sanctuaire, eh bien nous sommes prêts à accueillir leurs demandes et puis à l'instruire pour leur permettre d'étoffer les équipes, parce que parfois nous sommes effectivement en flux particulièrement tendu dans des confesseurs auxiliaires. Et d'autre part, peut-être que la nouveauté de cette dernière année, c'est le fait de mettre en place une nouvelle formule entre le chapelain et le confesseur auxiliaire. C'est le prêtre que l'évêque ou le supérieur nous recommande pour une année sabbatique, une année de ressourcement. Alors vous allez me dire, si c'est une année sabbatique, il faut se reposer. Oui, bien sûr, le rythme est quand même pas aussi chargé que lors de la mission précédente, mais de fait c'est la possibilité pour tel ou tel. Ça s'est vécu cette année avec beaucoup de réussite, beaucoup de joie, et c'est aussi pour cette année 2024-2025 la perspective, avec l'un ou l'autre qui rejoint la communauté, de pouvoir à la fois se reposer, de vivre au sein de cette communauté de chapelains qui est effectivement particulièrement heureuse, et en même temps de rendre un réel service pour le sanctuaire de Lourdes et aussi pour lui-même, parce que de fait un prêtre ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et de fait on voit très bien à quoi l'on peut entre guillemets servir, hein, dans cette dimension d'écoute et d'accompagnement de pèlerins qui ressentent vraiment vraiment ce besoin d'espérance et ce besoin de pardon, de libération lorsqu'on est présent, lorsqu'on est venu ici dans le sanctuaire.
Merci Père Michel Dauban.
Avec plaisir.